Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, sans Dieu ni maître ni publicité. Et ce soir, c'est Jeudi Noir, consacré donc avec Michel, José et moi-même, comme d'habitude. Et l'émission sera consacrée ce soir à un livre d'Anne Steiner qui s'appelle Le goût de l'émeute, publié aux éditions de L'Échappée l'hiver dernier. Donc c'est pas vieux. Alors Anne Steiner, c'est quelqu'un qui est spécialisé sur les mouvements de lutte armée de manière générale. Elle est maître de conférence en sociologie à Nanterre. Elle avait écrit un petit livre il y a quelques années sur la RAF, la Rote Armée Fraction.
Quel accent.
Et donc ce livre, c'est Michel qui va nous en parler aujourd'hui essentiellement. Il est sous-titré « Manifestations et violences de rue dans Paris et sa banlieue à la belle époque ». Le titre donc « Le goût de l'émeute ». De quoi ça parle, Michel?
Ben, déjà, malgré que tu aies cramé deux, trois informations que j'avais préparées, mais ça, je m'attendais à pas moins de ta part. Je voulais dire deux, trois mots donc sur Anne Steiner. Plutôt sur les bouquins qu'elle a écrits, parce qu'elle en a écrit trois, moi je les ai lus au fur et à mesure des années. Donc en particulier, donc tu citais le bouquin sur la RAF, mais il y a aussi un livre qu'elle avait écrit qui était pas mal du tout, qui s'appelle Les En Dehors, anarchistes, individualistes et illégalistes à la belle époque, qui a été publié en 2007. Le bouquin sur la RAF était de 2006. Elle l'avait écrit en collaboration avec Loïc Debray.
J'ai parlé de la RAF parce que je suis internationaliste. En fait, je m'intéresse pas simplement au mouvement franco-français, si tu veux.
Oh, là, là, là. Donc, je répondrai pas à cette provocation gratuite. Donc, je pense que ce qui est intéressant, bon, si ce genre de choses vous intéresse, je vous recommande vivement d'aller lire les deux autres livres d'Anne Steiner, parce qu'ils sont bien. Je pense que je peux le dire comme ça, sans trop de...
Disine Gout.
Voilà, voilà, c'est des bons bouquins, pour plein de raisons. Et alors, il me semble que la perspective générale qu'elle aborde, j'ai pas fait de recherche, j'ai pas regardé si elle avait fait donner des interviews où elle précisait ça, c'est quand même tout le problème de la violence et de la politique, et en particulier de la violence contestataire face à la violence d'État. Et elle éprouve, bon, je pourrais dire ça comme ça, c'est qu'elle éprouve un intérêt, sans doute, vu le choix de ses thèmes, pour toutes les formes de contestation du monopole étatique de la violence légitime. Donc là, je fais référence évidemment à Weber. Je disais évidemment pour Jean-Mathias, mais comme il avait la bouche pleine, il ne pouvait rien dire.
Non, parce que je pensais toutes les formes de contestation là. Non, vas-y, continue.
D'accord, en fait, il pensait rien.
Donc, j'attends.
D'accord, tu le diras. Et donc, bon, les sociologues, Weber, c'était un grand sociologue allemand, qui est mort au début du XXe siècle, enfin 1919 ou 1921, dans ces eaux-là, je crois. Et Weber avait théorisé l'idée que l'État, finalement, quel était ça? Comment est-ce qu'on peut le décrire sociologiquement? C'était une institution qui tendait à. Qui avait tendance. Enfin, qui revendiquait l'exercice monopolistique de la violence légitime. En gros, les flics ont le droit de vous frapper, vous n'avez pas le droit de les frapper. Les flics en tant que représentants de l'État, j'entends.
Et tu n'as pas le droit non plus de frapper ton voisin si jamais tu n'es pas d'accord avec.
Exactement. Donc, c'est plus qu'un rapport asymétrique entre les citoyens et l'État, c'est aussi le fait que les citoyens entre eux sont privés de toute forme de violence légitime. Mmh. Et Einsteiner, à chaque fois qu'elle prend un objet de contestation, ben, c'est toujours des objets où, justement, on voit des gens qui contestent et qui vont rentrer violemment en conflit avec l'État. Et en général, ils sont écrasés. Que ce soit dans le cas de la RAF, que ce soit dans le cas de son bouquin sur les anarchistes individualistes à la Belle Époque, qui est consacré à la fameuse Manda Bono, qui se fera aussi écraser, ou que ce soit encore dans ce bouquin sur le goût de l'émeute, où finalement, chaque fois que les contestataires revendiquent la violence, ça se termine plus ou moins mal pour eux. Alors, je pense qu'il y a des thèmes de réflexion qui sont assez intéressants là-dedans, même si Einsteiner, elle, reste toujours, ce qui semblerait, en deçà, je pense que c'est une démarche volontaire chez elle, en deçà de la théorisation. Je ne cherche pas à faire de théorie, elle raconte essentiellement. On voit bien qu'il y a des idées, il y a des concepts derrière, mais elle n'en tire pas de grande théorie générale sur le rôle de la violence dans la politique. Simplement, cette espèce d'intérêt pour presque toujours les mêmes choses, la violence contestataire, soi-disant illégitime, par rapport à la violence d'État, soi-disant légitime, et puis l'une étant écrasée par l'autre, ça vient tout le temps, et je pense que c'est le fond de sa... Enfin, j'aurais tendance à penser que c'est un peu le fond de sa réflexion. Donc... Ici, dans le cas qui nous intéresse, indépendamment de tous les bouquins qu'elle a pu écrire et de ses intérêts d'ordre généraux, je pense que la perspective particulière qui a guidé ce bouquin, alors c'est une hypothèse de ma part, c'est une des choses qui l'intéresse en tout cas, c'est de savoir ou de regarder à quel moment, plutôt, la manifestation telle que nous on la connaît. C'est-à-dire une manifestation qui est quand même largement pacifique. D'accord ? Vous n'avez qu'à aller dans une manifestation aujourd'hui, vous aurez le...
Sauf si c'est la manif pour tous, Michel.
Ah oui, c'est vrai, non, mais on oubliait les sauvages de l'autre bord. Elles sont relativement pacifiques, dirais-je, pour m'épargner tes sarcasmes. Et donc, globalement, vous avez, le camion du PS qui passe « Je rêvais d'un autre monde », comme musique. Bon, jamais la bombe humaine. On se demande pourquoi. C'est peut-être parce que...
C'est pas plus mal. Allez, vas-y, continue. Ouais,
peu importe. Ouais. Et ça en ferait moins de voix, peut-être, la bombe humaine, à savoir. Mais bon. Donc aujourd'hui, si vous voulez, la manifestation, c'est plus devenu, et en particulier depuis les années 80, ça c'est relativement récent, une espèce de fête, qu'un moment revendicatif politique qui peut inclure de la violence. Et la violence, elle va être toujours décrite comme étant en marge, comme étant une espèce d'accident, comme étant une espèce de truc pas terrible qui arrive. Et... Ce qui est intéressant, c'est que pour pas mal d'entre nous, la manifestation, c'est devenu une forme de contestation évidente. Cette manifestation-là, la manifestation pacifique. C'est comme ça qu'on conteste, c'est comme ça qu'on s'exprime, c'est comme ça qu'on s'engage politiquement, d'une certaine manière. Et ce que nous apprend le bouquin d'Einsteiner, de façon générale, c'est que il n'a pas toujours été ainsi. Et la période qu'elle aborde dans Le goût de l'émeute, donc manifestation et violence de rue dans la Paris et sa banlieue à la Belle Époque, d'Einsteiner, c'est que finalement, cette forme de contestation politique non violente, en exprimant ses opinions en masse dans la rue, elle a été plus ou moins imposée à une partie de la classe ouvrière à un moment donné. Et que jusqu'alors, c'était essentiellement, les manifestations étaient interdites et tout regroupement devenait assez rapidement, se transformait assez rapidement en émeute. Et que, certaines personnes plutôt à gauche ont essayé d'imposer la manifestation comme forme de protestation et que c'est pas passé sans heurte en fait. C'est-à-dire qu'au début, la manifestation était mal vue par pas mal d'anarchistes, mais par pas mal aussi d'ouvriers syndiqués.
Parce que considéré comme trop pacifique.
Alors,
ou trop intégré à...
Oui, trop
au dialogue social.
Ils y voyaient quelque chose de militaire, d'organisé, de je pense qu'il y avait quelque chose que de peut-être que les ouvriers voyaient quelque chose de risible pour le pouvoir. Du type qu'est-ce qu'on a à craindre d'une manifestation par rapport à la crainte que peut susciter une émeute. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre. C'est moi qui spécule, hein, c'est pas du tout des choses qu'Einsteiner développe. Elle s'appuie sur des faits, elle raconte des documents, elle raconte la façon dont les choses se sont à peu près passées. Mais moi, j'essaie de réfléchir à partir de ce qu'elle donne, parce que je trouve ça intéressant. Parce qu'on est tellement convaincu que la manifestation, c'est comme ça qu'on doit contester, d'une certaine manière.
Alors, juste deux petites remarques comme ça. La période dont il est question, sur la période de la Belle Époque, moi, je ne suis pas un historien de l'État patenté, mais il me semble qu'une hypothèse qu'on peut faire, c'est aussi la période où l'État moderne se met en place.
Oui, en partie.
C'est-à-dire, alors bon, c'est évidemment... Parce qu'on en vient à perdre de vue que l'État, il a une histoire, c'est-à-dire qu'il n'a pas toujours existé tel que...
Une histoire relativement récente.
Relativement récente.
Enfin, l'État tel que nous, on le connaît.
C'est
Le bouquin de Osbaum, d'un historien marxiste anglais, qui s'intitule « Les bandits », Osbaum montre bien que jusque tard dans le 19e siècle, la plupart des États n'ont pas les moyens d'entretenir une armée permanente. Ni une police suffisante. Ce qui fait que le monopole, justement, le fameux monopole étatique sur la violence légitime, est plus une revendication un peu vide, à certains égards, qu'une réalité.
Oui, est-ce que l'État moderne, c'est-à-dire qui a même d'assumer ses missions régaliennes, police, justice, armée, et de les assumer dans les faits, c'est-à-dire que les gens reconnaissent cette autorité-là, d'une certaine manière.
Et non seulement qu'ils les reconnaissent, mais qu'en plus, cette autorité soit présente physiquement partout sur le territoire. C'est-à-dire qu'au-delà du symbolique, il y a aussi le physique. C'est-à-dire le fait que tu sais que si tu déconnes, il y a un type qui va venir avec un gros bâton te taper dessus.
C'est ça. Et que donc, a priori, normalement, on va dire, normalement ou habituellement, tu déconnes pas. C'est la deuxième moitié du 19e, et effectivement, la Belle Époque est le moment où ça se met en place. Alors ça, c'est première remarque. Donc, pour expliquer aussi le fait que, oui, c'est aussi à ce moment-là que s'intègrent peut-être certaines formes de revendications. Il me semble me souvenir quand même, sur ce que j'ai pu lire concernant le mouvement syndical américain, que la manifestation a, elle, notamment pour les IWW, les fameux Wobbly américains, que pour le coup, ça n'a jamais été conçu comme une espèce de pis-aller imposé par l'État. C'est-à-dire qu'il y a eu une culture de l'agit-prop, on pourrait dire, ou de la propagande, qui intégrait directement ça avec le tract, le boycott, et que ça a fait partie du répertoire de lutte ouvrière. Sans majuscule, pratiquement tout de suite, quoi. Donc, alors, il faudrait voir, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose qui est propre à la France là-dedans, ça serait une question.
Ouais, après, il faudrait voir ce qu'on met sous le mot manifestation, c'est ça qui est assez compliqué, parce que un regroupement de masse à visée contestataire, ça, la plupart des ouvriers le faisaient déjà, simplement, ils ne le faisaient pas dans le cadre imposé de ce que nous, on appelle une manifestation. Et ce cadre-là, justement, il va apparaître à la Belle Époque et il va casser d'autres formes de contestation beaucoup plus violentes qui existaient à l'époque. Donc ici, c'est un peu compliqué. À quoi pouvaient ressembler les manifestations de l'IWW ? Enfin, faudrait voir. Je ne suis pas spécialiste de l'histoire de la manif, mais en même temps, je trouve ça intéressant de voir que... ce qui nous semble évident comme forme de contestation n'est pas tant que ça historiquement. Après, ce qui peut-être manque dans le livre de Steiner d'un point de vue général, même s'il il touche de temps en temps, c'est le côté... Il y a un côté romantique dans l'émeute. Alors après, on va pas se la jouer genre bureaucrate responsable contre les irresponsables romantiques qui préfèrent sortir dans la rue, quoi. Mais en même temps, ça dispense pas d'un questionnement sur la valeur politique de l'émeute. Alors ici, je pense que ça, c'est des choses auxquelles on avait déjà réfléchi, en fait. J'y ai pensé. Je pense que ça renvoie aussi à des débats contemporains, ce livre, sur le fait que la plupart du temps, la violence populaire est considérée comme est dépolitisée ou considérée comme impolitique. Une émeute dans les quartiers, c'est des jeunes cons qui s'amusent à brûler des voitures. Et brûler des voitures, ça ne peut avoir aucune signification politique. Ni du point de vue de ceux qui brûlent les voitures, ni pour les observateurs éclairés, entre guillemets. Et ce qu'elle montre aussi dans ce bouquin, c'est que l'émeute, à la belle époque, répond tout à fait à des motivations politiques. Et que de ce point de vue-là, la violence populaire n'est pas disqualifiable a priori. Ça, je pense que c'est aussi intéressant. Parce que après, il faudrait pas non plus dire les ouvriers de la belle époque étaient conscients politiquement, donc leurs émeutes avaient une conscience politique, et ipso facto, les émeutes modernes dans les quartiers ont aussi une signification politique. Bon, ce serait un raisonnement plutôt bancal. Mais en tout cas, ça nous incite peut-être à penser que c'est pas parce qu'il y a une émeute, c'est pas parce qu'il y a de la violence exercée par des classes populaires qu'il n'y a pas de signification politique. Ce qu'on a tendance à nous mettre dans le crâne aujourd'hui. Puisque toute forme de violence qui n'est pas exercée par l'État est condamnée a priori, quoi qu'il arrive, et n'est pas réfléchie. C'est juste, c'est des débiles qui cassent des trucs. Évidemment, c'est complètement inefficace, ils n'obtiennent absolument rien. Oui, en réalité, c'est un peu plus compliqué.
Et en plus, ils ne seront pas amnistiés.
Ouais, alors qu'à l'époque, ils pouvaient l'être. Donc je pense qu'il y a tout ça un petit peu, peut-être en arrière-fond de ce livre. Et comme je vous dis, c'est moi qui le rajoute, donc peut-être, si j'ai dit des conneries, ne les imputez pas à l'auteur, oui. Parce que...
Anne, si tu nous écoutes, tu peux l'appeler.
On la connaît pas, Jean-Mathias fait son kéké. Donc, simplement, je voudrais pas lui attribuer des opinions qui ne sont pas les siennes. Alors, moi je vais surtout... on va peut-être passer de la musique, parce que là on va commencer à devenir chiant. Donc,
après White Riot, des Clash, tout à l'heure... Chromosome Y des Bérus.
What?
Salut à tous, vous êtes toujours sur Radio Liberté à 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, sans Dieu ni maître ni publicité, et ce soir c'est Jeudi Noir, avec Michel, José et moi-même.
Jean-Mathias, donc.
Voilà, on vous parle d'un livre d'Anne Steiner qui s'appelle Le goût de l'émeute, publié aux éditions de L'Échappée l'hiver dernier. Alors Michel, tu nous as donné un petit peu le cadre et les problèmes, le cadre théorique on va dire, hein, et puis les problèmes généraux que tu avais cru discerner derrière voilà, ce projet de bouquin sur l'émeute, donc les rapports à l'État, est-ce que la violence a une signification politique, la manière dont finalement l'État avait peut-être petit à petit interdit de donner une signification politique à la violence, se réservant, voilà.
C'est même pas forcément l'État
en fait. Le monopole de la... Oui, les individus s'auto-censureront eux-mêmes là-dessus.
Non, ça peut être la gauche qui veut des places à l'Assemblée nationale.
Ça peut aussi être ça. Hein. Alors, ça c'est pour effectivement le cadre un peu général. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre-là ? Il nous raconte quoi ?
Donc, dans ce livre-là, alors, moi je vous parlerai sans doute plutôt de l'introduction pour pas tout dévoiler quand même. En fait, elle va se pencher sur une période qui va... en gros, de 1906 à 1912, à peu près 1910, et elle va analyser plusieurs cas d'émeutes, à partir souvent de mouvements sociaux, mais pas seulement. Ça peut partir de grèves qui sont liées à des revendications salariales, comme par exemple pour ce qui s'est passé en 1908 à Draveil. Une histoire assez célèbre, me semble, parce que j'avais déjà lu des choses là-dessus. Ou alors, ça peut partir de choses qui apparaissent comme des injustices caractérisées à l'égard d'ouvriers. Et là, je pense à l'histoire assez formidable qui est arrivée à Liabeuf. Je ne sais pas si tu connais Jean-Mathias.
Non, vas-y, rappelle-nous ça.
Oh, bah, c'est un truc, il y a eu un bouquin dessus d'ailleurs, encore à l'échappée. Donc, Liabeuf, un ouvrier qui est plus ou moins harcelé par la police des mœurs, qui l'accuse de vivre du pain de fesses. Mmh. C'est-à-dire le pain de fesses, c'est le proxénétisme. Et parce que ben, il traîne avec des prostituées dans les quartiers interlopes de Paris. En même temps, il semble, d'après les documents dont on dispose encore, que c'était véritablement un ouvrier. Mais il est pourchassé par la police des mœurs, qui, déjà à l'époque... a besoin pour gagner sa croûte de montrer des résultats chiffrés. Donc, évidemment, un ouvrier qui traîne avec une prostituée, ben, ça fait une cible de choix.
Mais ça fait plusieurs chiffres, là. T'as plusieurs affaires résolues d'un coup.
D'un coup, quoi. Tu peux faire monter tes stats. Mmh. Mais le souci, c'est que Liabeuf, bon, il était connu, il avait fait Biribi, donc, c'est-à-dire les bataillons disciplinaires d'Afrique, parce qu'il avait un casier judiciaire au moment d'être appelé sous les drapeaux. Donc, bon, c'était... Il savait deux, trois bricoles, j'imagine. Mais c'était un ouvrier qui travaillait, qui gagnait sa vie normalement, et semble-t-il, et il a été harcelé par la police des mœurs, et à un moment, bah, il est passé en procès, on l'a interdit de séjour, on l'a empêché de travailler. Et il a décidé de se venger. Et donc, ça a donné lieu à une histoire formidable. Hors norme, parce que en travaillant un petit peu illégalement droite à gauche, en fait il s'est forgé des armes, des épaulières et des choses à mettre sur les avant-bras en cuir garnis de pointe. Il avait plus ou moins transformé son couteau de travail, il avait un revolver et il a tué 2-3 flics, j'ai oublié le nombre exact. Il cherchait les deux particuliers qui lui avaient plus ou moins ruiné sa vie. Il n'est pas tombé sur eux, mais sur d'autres qui l'ont arrêté quand même. Et ça s'est terminé dans un bain de sang. Il s'est fait arrêter après un coup de sabre quand même. Et il a eu droit à un procès, mais tout ça, ça a donné lieu à tout un tas comment dire. Étant donné que c'était quelqu'un qui avait été victime d'une injustice et qui avait cherché à se venger, la condamnation à mort était très très mal prise. Et le jour de son exécution, il y a eu une émeute invraisemblable, pas loin du lieu où il se faisait guillotiner. Donc, elle a analysé tout un tas d'émeutes comme ça, en fait. Elle regarde les conditions de travail, les conditions de vie, éventuellement aussi, dans le cas de Liabeuf, par exemple. Et puis, elle essaie d'analyser, j'ai l'impression, Anne Steiner, donc dans Le goût de l'émeute, le livre publié à l'échappée, essaie d'analyser comment est-ce que l'émeute surgit et qu'est-ce qui se passe à partir de là. Et il y a des schémas relativement remarquables de ce point de vue-là. Je vais y venir. Voilà pour en quelque sorte le contenu du livre. Mmh. Je pense que donc c'est toujours c'est bien écrit, c'est très clair. Elle montre bien le contexte, je trouve, et on comprend pas mal de choses sur voilà comment les événements se produisent. Je dirais que c'est un travail, c'est l'histoire qui est agréable à lire. C'est curieux d'ailleurs parce que ça ressemble pas tellement de la sociologie d'une certaine manière, on dirait plutôt de l'histoire. Mais elle va partir. Alors elle va partir d'un truc, ça c'est intéressant. Dans l'introduction, elle donne un petit peu les repères historiques. Et elle va partir du 1er mai 1906, qui à l'époque est attendu par énormément d'ouvriers comme le point d'orgue du combat engagé par la CGT.
Et de la grève générale.
C'est ça, mais alors là, je vais y venir après. Du combat donc engagé par la CGT un an et demi plus tôt, pour obtenir la journée de 8 heures. Donc d'après ce qu'elle décrit, cette journée de 8 heures est attendue par la majorité du monde du travail comme le moment où ils seront enfin libres. Et le mot d'ordre, c'est que le 1er mai 1906, à partir du 1er mai 1906, donc les ouvriers sont supposés travailler 8 heures, et après, ils partent. Ils s'en vont. Mais le 2 mai, ça doit continuer. Le 3 mai aussi, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'ici, il y a une espèce de tentative de passage en force sur les 8 heures. À partir d'aujourd'hui, on ne travaillera plus que 8 heures.
Avec une campagne énorme de propagande,
avec une
projet, le père Pénard, c'est la ça. CGT, toute la littérature.
Griffels et derrière. Et puis les bourses du travail, enfin, ouais. Tout ce qu'il pouvait y avoir de syndicalisme révolutionnaire de l'époque, parce que la CGT de l'époque n'avait rien à voir avec celle d'aujourd'hui, a été mobilisée sur ce coup-là. Et donc, ce 1er mai 1906 avait été préparé des mois auparavant. Et donc, évidemment, comme il y a une énorme attente du côté dans le monde ouvrier, en face, il y a beaucoup d'inquiétudes, il y a beaucoup de flics, il y a beaucoup de soldats. Et par exemple, pour vous donner simplement un chiffre, Steiner mentionne que le 1er mai 1906, il y aura 45 000 flics et militaires qui seront mobilisés rien qu'à Paris.
45 000, c'est énorme.
C'est colossal. Ouais. Alors, parce qu'on se dit, oulala, où est-ce qu'ils vont les mettre ces 45 000 flics et militaires ? Ils vont les mettre en particulier sur une place de Paris, peut-être la place de la République, je n'avais pas noté, peut-être que je fais une erreur, mais sur une place de Paris. Et la tactique à l'époque consistait à ce que la cavalerie tourne autour de la place tout le temps, pour empêcher des regroupements massifs. Donc voilà, imaginez aujourd'hui on mettrait des motards à la place, qui tourneraient sur la place tout du long pour empêcher les gens de se regrouper. Bon bah, c'est l'idée. Et donc, en plus de ces 45 000 flics et militaires mobilisés, il y a aussi des arrestations préventives, ça c'est magnifique, de syndicalistes en vue. Voilà, on les arrête avant que quoi que ce soit produit, histoire d'être sûr que rien ne se produise. Et en fait, d'une certaine manière, ça marche, ce jour-là. C'est-à-dire que le grand regroupement est enrayé. Mais à côté, ça barde. C'est-à-dire que dans les rues qui ne sont pas occupées par la police, et les policiers ne peuvent pas occuper toutes les rues, ben, il y a un omnibus qui est renversé, il y a des boutiques qui sont cassées, il y a des affrontements entre manifestants et policiers, enfin, il y a deux, trois bricoles. Et le résultat, c'est que cela va sembler renforcer la mobilisation. Ce qui fait que le mouvement de grève va s'amplifier. Et si elle dit que la moyenne des grèves, c'est quelques semaines, 2-3 semaines, j'ai oublié, il y a certaines grèves qui dureront plus de 3 mois après le 1er mai. Donc c'est quelque chose, 3 mois de grève quand même. C'est pas des petites mobilisations du type on n'est pas content, on manifeste une journée et puis on rentre chez soi. Non, 3 mois de grève, bim. Donc, et c'est pas seulement, en plus, alors je dis, voilà, certaines grèves dureront 3 mois, mais ce que dit Einsteiner, c'est que finalement, c'est en quelque sorte ce 1er mai 1906, c'est le coup d'envoi d'un mouvement social qui va durer entre 1906 et 1910 et qui sera peut-être le plus grand mouvement social affronté par la Troisième République.
Ah, c'est le point, l'âge d'or de la CGT.
C'est ça. C'est l'âge d'or de la CGT.
Syndicaliste révolutionnaire.
Syndicaliste révolutionnaire.
Avant le reflux de la guerre de 14, quoi.
Et même un peu avant, en fait, le reflux commence en 1912, dans ces eaux-là. Ouais. Mais même si la guerre de 14, alors là, la guerre de 14, je dirais que c'est le coup de grâce. Mais les Pouget, les Griffes ont été éliminés avant. Avant 14, en fait. Et alors, qu'est-ce que. Donc, c'est un mouvement de contestation exceptionnel. Il y aura énormément de grèves, énormément d'arrêts de travail, de sabotage, tout un tas de choses comme ça. Et qui est au pouvoir à l'époque, ben ça je reviendrai, c'est les radicalistes qui ont été portés au pouvoir en partie, les radicaux plutôt, qui ont été portés au pouvoir en partie par les ouvriers. Mais bon, ça c'est intéressant par rapport à la CGT, j'imagine que tu vois pourquoi Jean-Mathias. Mais donc, qu'est-ce qu'ils revendiquent à l'époque? Bon, des choses qui nous semblent relatives. Alors, des meilleurs salaires, bon, normal. Mais à l'époque, ils peuvent aussi se mettre en grève contre des diminutions de salaire. Ça va être l'origine, par exemple, des grèves à Draveil, où il y a pas mal de trimardeurs, mais aussi de... le nom m'échappe, je vais le retrouver. Il y a pas mal de gens qui travaillent dans les sablières de Draveil, et à un moment, ils sont censés être payés 50 centimes les terrassiers, ils sont censés être payés 50 centimes de la journée, et puis du fait de la concurrence entre les entreprises, mais concurrence entendue d'une certaine manière aussi, c'est-à-dire que les patrons s'entendent entre eux, pour éviter qu'il y ait des salaires trop différents et pour éviter que les ouvriers puissent faire jouer la concurrence entre les employeurs, ils décident autoritairement de passer de 50 centimes à 40 centimes. Voilà, donc du jour au lendemain, votre patron vous dit, ben voilà, je te paye un cinquième de moins. Donc, je vous ai dit que ça lui rappelle quelque chose. Moi, je vois pas du tout, quoi. Mais, donc, ici, évidemment, les ouvriers sont pas forcément super contents, on peut les comprendre. Imaginez qu'on ampute votre fiche de paie d'un cinquième, ne serait-ce que ça. Donc, alors, ils peuvent aussi manifester, enfin, se mettre en grève pour des choses qui peuvent sembler relativement évidentes, comme l'application de la loi, loi de 1906, instituant une journée de repos hebdomadaire. Parce que, comme vous le savez, c'est pas parce qu'on vote une loi qu'elle est appliquée aussi sec. Et dans ce cas-là, il semble que c'était pas du tout évident. Et donc, il y aura aussi pas mal de grèves à ce sujet. À l'époque, les ouvriers manifestent, enfin, se mettent en grève aussi pour réintégrer des ouvriers licenciés. Licenciés en général pour faire de grève. Ce qui fait que les grèves peuvent s'engendrer elles-mêmes les unes les autres. Puisque, voilà, on se met en grève, les leaders sont virés, on se remet en grève pour qu'ils soient réintégrés. Mais il peut y aussi y avoir des grèves pour faire virer les contremaîtres. C'est pas simplement des grèves pour réintégrer les gens qui bossent, peut-être aussi, voilà, lui c'est un emmerdeur, on voudrait qu'il soit viré, donc on se met en grève. Hop là. Je trouve ça très sympathique, personnellement, quoi qu'on en pense. Alors, il y a aussi un truc qui est assez intéressant, c'est toutes les grèves qui ont trait, elle en parle aussi dans les exemples un peu concrets, en particulier du côté des ouvriers qui travaillent, les boutonniers qui travaillent sur la nacre, et qui sont souvent des artisans, et qui peuvent se mettre en grève pour contester des nouveaux règlements d'atelier qui leur imposent finalement une vie d'ouvrier à la chaîne, enfin un travail d'ouvrier à la chaîne. Et il semble que le monde ouvrier de cette époque-là est encore très très proche de l'artisanat et très très rétif à l'idée d'accepter cette discipline d'usine, pour dire les choses comme ça. Et donc ça fera partie des motifs aussi. Et on peut s'apercevoir en lisant son bouquin que finalement, pour dire que dans le monde des artisans recrutés par des patrons, il y avait encore une certaine liberté qui était laissée. C'est-à-dire que les ouvriers peuvent se mettre en grève parce qu'on essaie de leur ôter le droit de prendre une pause quand ils veulent. Ce qui est intéressant quand même.
Mais là, tu nous parles de tout ça, c'est le goût de la grève, ça, c'est pas le goût de l'émeute.
Ouais, mais attends, j'y viens. Alors, il peut y aussi avoir des grèves pour la... Mais parce que c'est très très lié, en fait. Tu vas voir. Et après, en général, même quand ces grèves, toutes ces grèves peuvent éclater, et qu'elles soient même quand elles sont victorieuses, elles sont très très souvent suivies d'une grève pour la reconnaissance de la section syndicale. Ce qui à l'époque est refusé de la plupart de façon catégorique par la CGT, par le patronat. Parce que vu la CGT de l'époque, ils ne veulent pas du tout les voir sur une table de négociation en fait. Ce qui est assez intéressant. Aujourd'hui on revendique la négociation, bon à l'époque les patrons ne voulaient même pas voir ce type de syndicaliste arriver à une table de négociation. Je pense que de ce point de vue là, le progrès n'est pas forcément pour nous.
Non, bah, ils n'avaient pas encore compris l'intérêt du dialogue social, il faut leur laisser le temps, écoute, qu'est-ce que tu veux.
C'est ça, t'offres un petit four à un syndicaliste de CGT et puis tout de suite il devient plus gentil.
Au début, ils n'avaient pas compris qu'il fallait dialoguer. Le patronat, voilà, maintenant ils savent qu'il faut dialoguer avec la CFDT. Vas-y, continue.
Alors, et donc, pour les auditeurs qui l'ignoreraient, à l'époque, la CGT se revendique du syndicalisme. En fait, c'est du syndicalisme révolutionnaire. Et eux, ils sont en faveur de la grève générale. Tout simplement. Et la grève générale, alors, peut-être qu'on pourrait développer. Ils sont sur une ligne, on pourrait dire, très très dure du syndicalisme. La grève générale, c'est une stratégie révolutionnaire à part, qui s'oppose, en règle générale, à la stratégie d'insurrection, avec une espèce d'avant-garde qui se débrouille pour faire chuter l'État de façon presque chirurgicale. Mais il s'oppose aussi à la stratégie réformiste qui voudrait changer les choses par le vote.
Alors du coup, comment ça s'articule avec les émeutes, hein,
parce Alors que... justement, c'est ça qui va être compliqué. C'est-à-dire que les émeutes, elles sont pas forcément, elles sont pas du tout planifiées comme pourrait l'être une insurrection, à proprement parler. Alors, avant de parler de l'émeute, il faut quand même signaler, peut-être à l'attention de, je sais pas, de certains dirigeants syndicalistes qui, par hasard, pourraient nous écouter, que quand la CGT tenait cette ligne dure, elle est passée de 200 000 adhérents à 700 000 en 6 ans. Alors, c'était sur plus de... C'était pour 7 millions de salariés, ça représente un nombre relativement faible par rapport à d'autres pays, mais quand même, cette espèce de croissance du syndicalisme... dans une époque où la répression était très très dure, où les conditions de vie étaient très très dures, et où la CGT prenait aussi une ligne à peu près aussi dure que les conditions dans lesquelles vivaient les adhérents, c'est intéressant, je trouve. 500 000 adhérents en 6 ans, c'est bien, je crois. Donc, et ici l'idée c'est que... j'arrive à l'émeute, hein, mais lentement. Lentement. Je sais que toi tu veux parler d'émeute parce que t'es un jeune fou, tout ça.
On y va quoi, bon, je sais pas...
Donc,
ça allonge le goût de l'émeute, je sais pas, on se prépare, quoi, voilà.
Attends, j'y viens, un peu de suspense. Donc, alors, la CGT elle va se manifester comment ? Elle va se manifester par l'organisation de solidarité, par l'organisation de la solidarité pendant les grèves. Alors, ça, c'est très intéressant, c'est un exemple, il y a beaucoup d'exemples qui sont donnés dans le livre de Steiner. C'est que, par exemple, quand des ouvriers se mettent en grève, mettons, quand les boutonniers se mettent en grève, ils n'ont pas forcément de quoi nourrir leurs enfants. Et la CGT organise des convois d'enfants qui vont chez d'autres ouvriers qui, eux, ne sont pas en grève, afin qu'ils soient nourris. Et l'idée derrière, c'est, dans quelque sorte, de montrer, de construire la conscience de classe.
Et une autonomie ouvrière.
Et une autonomie ouvrière.
À l'égard de l'État.
Tout à fait. C'est-à-dire se passer totalement de l'aide de l'État, du patronat, et pouvoir mener des choses, en quelque sorte, faire en sorte que la classe ouvrière puisse mener des choses par elle-même, sans dépendre de qui que ce soit. Et c'est aussi, ça passe par l'organisation de ce qu'ils appellent la soupe communiste, c'est-à-dire qu'ils nourrissent les grévistes en se débrouillant pour avec les dons, avec les cotisations, pour pouvoir faire à manger tout simplement, voilà, pour les déjeuners, les dîners. Et tout ça va s'articuler, ça vous en doutez peut-être, chers auditeurs, avec un refus du jus électoral. Et ce refus électoral à l'époque tombe très bien parce qu'il rejoint la méfiance populaire envers la République. La méfiance populaire qui a été accentuée par la trahison, entre guillemets, des radicaux portés au pouvoir par le peuple. Alors c'est des gens comme Clémenceau, c'est des gens qui aussi comme Briand, qui avait été socialiste.
Il ne faut pas perdre de vue qu'on est à... qu'il y a une mémoire de la Commune qui n'est pas si lointaine. On est à peine 40 ans après la Commune.
Ben, c'est même plus que une mémoire de la Commune, c'est aussi une mémoire de 48. Ils vivent là-dessus, comment dire, l'imaginaire.
Le mur des fédérés, c'est 35 ans avant.
C'est ça, donc il y a forcément des gens qui ont connu cette période-là et qui sont encore en activité.
Donc c'est l'élection de Mitterrand pour nous, proportionnellement.
Oui. Voilà. Donc pour la plupart des auditeurs, j'imagine que c'est quelque chose qui semble...
Relativement proche.
En tout cas, quelque chose qu'ils ont connu et qui a eu un impact sur eux d'une manière ou d'une autre. Et donc, et il faut savoir de ce point de vue-là que justement à cause de ces émeutes, ouais, j'en parle Jean-Mathias, des gens comme Clémenceau ou comme Briand feront 20 morts, enfin il y aura à peu près 20 morts, plusieurs centaines de blessés du fait de la répression menée par la gauche, entre guillemets. Toute comparaison avec la situation actuelle est bien entendu extrêmement malvenue. Nous savons qu'aujourd'hui la gauche, entre guillemets, est gentille, n'est-ce pas ?
Donc, les syndicats aussi,
oui, bien sûr, faut pas oublier. Ouais. Voilà, alors juste après un intermède musical, je vous parlerai de la SFIO. Donc là, on va écouter un morceau des Dead Kennedys qui s'intitule de façon absolument, comment dire, une pertinence absolue, choisi par José. Ça s'appelle Riot, c'est-à-dire révolte, émeute. Thank you.
sun is gonna blow. And it's all
Bonsoir à tous, vous êtes toujours sur Radio Liberté à 89.4, la radio de la Fédération anarchiste sans Dieu ni maître ni publicité. Et ce soir, c'est Jeudi Noir, consacré à un livre d'Anne Steiner qui s'appelle Le goût de l'émeute, publié aux éditions de l'Échappée l'hiver dernier. Vous venez d'entendre les Dead Kennedys sur un morceau qui s'appelle Riot. et qui illustre à merveille le thème de ce soir, à savoir la question de l'émeute et de la signification politique de la violence de manière générale. Alors Michel, tu nous as raconté un petit peu un certain nombre de récits et d'exemples d'émeutes dont il est question dans ce livre-là. Tu as parlé
de Liabeuf,
des émeutes aussi, de la grève de Draveil qui dégénère, et puis du mouvement social qui s'amorce à partir de 1906 et de la revendication de la journée des 8 heures, et de la manière dont finalement tout ça, cette espèce de violence un peu spontanée et insurrectionnelle, s'articule et puis prend son sens dans un contexte qui est un contexte de mouvement social extrêmement fort, extrêmement dur, avec des orientations qui sont celles de l'autonomie ouvrière et puis de la CGT syndicaliste révolutionnaire de l'époque, avec l'idée de construire une contre-société à l'égard et indépendamment de l'appareil d'État. Alors comment ça se passe, cette espèce de victoire provisoire de l'État sur l'autonomie ouvrière?
En fait, assez curieusement, je pense qu'elle va venir de... Enfin, je crois que l'hypothèse d'Einsteiner, c'est que cette défaite de l'autonomie ouvrière va venir de la SFIO. On pourrait le formuler comme ça.
De Jaurès.
Pas seulement, c'est ça qui est intéressant. C'est que la SFIO, j'oublie toujours, c'est l'international, c'est
la section française de l'international ouvrière.
Voilà. Donc section française de l'international ouvrière, et c'est l'unification donc de socialistes réformistes, mais qui reconnaissent l'existence de la lutte des classes. Et qui, au bout du compte, veulent quand même
dépasser le capitalisme,
le renverser même. Parce que réformiste à l'époque, c'est un sens.
Il s'agit de réformer en fait.
Oui.
Voilà, contrairement à ce qu'on.
Que les réformistes de l'époque aujourd'hui passeraient pour de dangereux révolutionnaires prêts à tout, je pense. Y compris même un Jaurès qui était assez timide sur 2-3 points par rapport à Hollande. C'est juste un fou dangereux.
Les sociaux-démocrates réformistes, ça va de la gauche du PS jusqu'aux bolcheviks russes. Hein.
C'est ça, complètement. Puisque...
Enfin, qui sont sociaux-démocrates révolutionnaires,
Mais il y a donc cette composante réformiste dans la SFIO, mais il y a aussi une composante insurrectionnaliste qui est représentée par Gustave Hervé et un journal fameux à l'époque, La Guerre sociale.
Dans la SFIO.
Et ici, ce qu'il faut bien voir, c'est que justement, la grève générale défendue par la CGT, c'est justement une stratégie révolutionnaire qui s'oppose de façon presque directe aux deux composantes de la SFIO, la composante réformiste et la composante insurrectionnaliste. Et ça, il y a des motifs derrière, tactiques, stratégiques, c'est-à-dire que les ouvriers ne croient pas qu'on puisse réformer les choses de l'intérieur, parce que, au moins la CGT, ils ont tendance à penser que dès que quelqu'un, même si un ouvrier devient élu, devenant député, en quelque sorte, il va passer dans une autre classe sociale. Et à partir de là, quoi qu'il fasse, quoi qu'il veuille, même s'il a très très bonnes intentions au départ, il va être en quelque sorte perverti par le système dans lequel il va rentrer. Alors qu'à l'origine, il voulait le pervertir, lui. et d'autre part, ils sont opposés aussi à l'insurrection. Parce que dans ce contexte de développement de l'État moderne que tout le monde connaît, les gens de la CGT ne pensent pas qu'une insurrection puisse fonctionner parce qu'elle sera trop localisée. Et elle sera écrasée par une force supérieure. Et la stratégie de la grève générale, c'est une stratégie qui vise finalement à faire la révolution presque partout, là où on est. Histoire que l'État ne puisse pas appliquer finalement la force maximale.
C'est une révolution décentralisée.
C'est une révolution décentralisée. Ouais. Où le syndicat est supposé prendre finalement la relève des institutions étatiques dans l'organisation de la gestion des ressources, du travail.
Et de l'économie.
Et donc ici, il y a une opposition qui est très très nette, mais justement la CGT va se retrouver opposée à deux autres courants, les insurrectionnalistes et les réformistes. Parce que la grève générale, comme stratégie, n'exclut pas du tout la violence. C'est-à-dire que c'est pas la grève des bras croisés. Il s'agit de prendre le contrôle de l'usine, à la limite.
C'est une grève générale expropriatrice.
C'est ça. Grève générale expropriatrice, comme l'a défini Sorel. Et donc, ici, en fait, la plupart des émeutes vont naître d'un fait relativement simple. C'est que les ouvriers se mettent en grève, pour commencer. Si la grève est localisée, ils ne cherchent pas à prendre le contrôle de l'appareil de production. En revanche, ils ont besoin que la grève se poursuive. Et donc, il faut qu'ils luttent contre les jaunes. C'est-à-dire contre des gens qui sont prêts à travailler pour pas cher, parce qu'ils ont besoin de travail, peut-être, sans doute, mais qui cassent la grève, de fait. Et à partir de là, les forces de l'ordre interviennent systématiquement pour entrave à la liberté du travail. Et donc...
D'où l'émeute ?
Il y a des violences. En règle générale, ça commence relativement doucement. À partir de là, la plupart du temps, les ouvriers organisent un rassemblement qui très souvent est réprimé, un rassemblement qui s'accompagne de violences contre les biens, contre les personnes. On casse des symboles, des objets qui symbolisent la richesse, des voitures, des devantures, tout un tas de choses. On oblige des ouvriers qui sont pas en grève à se mettre en grève. On tabasse quelques bourgeois au passage. Et en règle générale, à cela, il y a une réponse de la police et de l'armée qui est complètement disproportionnée, c'est-à-dire une charge sabre au clair, où des gens se retrouvent avec la cervelle sur le pavé, un bras qu'on doit couper parce que, en essayant de se protéger la tête, on a pris un coup de sabre sur le bras s'infecte, qu'il faut amputer. Et donc il y a une réponse à ces mouvements ouvriers, une réponse des forces de l'ordre qui est absolument énorme. Et ils se retrouvent, presque dans une bataille, alors qu'eux manifestaient. Et c'est de ça que ça va partir, finalement. Et à partir de là, il y a une espèce d'engrenage, parce qu'évidemment, il y a des rassemblements autour de l'enterrement des victimes des premières manifestations, qui eux-mêmes tournent très très mal, assez souvent, et qui se soldent par des centaines de blessés, quelques morts. Et justement, ici, qu'est-ce qui va se produire ? C'est que des gens comme Jaurès, ou même comme Gustave Hervé, qui auraient tendance parfois à soutenir les mouvements violents, eux, ils trouvent pas ça efficace, ils ont peur des mouvements spontanés de la populace. Ils disent pas la populace, évidemment, ils peuvent pas. Mais il y a de ça. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui est totalement incontrôlable pour eux, par eux. Et donc, à partir de là, justement, vous voyez, l'insurrection, ça s'organise. Si on a un bon blanquiste, on fait une société secrète, on prend des armes, et puis on se débrouille pour essayer de tuer les membres du gouvernement et prendre leur place. Une émeute, ça n'a rien à voir avec ça. Ça ne s'organise pas, ça part tout seul. Et donc des gens comme Jaurès ou comme Hervé sont très très embêtés face aux émeutes. Ils ont tendance à condamner la violence de l'État, mais ils ont du mal aussi à justifier l'émeute.
Mais t'as exactement les mêmes situations, y compris dans des mouvements politiques radicaux, lorsque tu as des émeutes qui se déclenchent à la suite de bavures policières, ou même, c'est pas si loin, si on prend les émeutes de 2005, moi j'ai toujours pas lu d'analyse politique particulièrement éclairante ou particulièrement claire de ce qui a pu se passer à ce moment-là.
Tout simplement
parce qu'il y a une difficulté, il y a une espèce de résidu de l'émeute qui rentre pas, tout ça, qui est même indicible. Et dans les discours et les catégories politiques qui sont les nôtres, peut-être encore plus aujourd'hui,
mais déjà à l'époque, en fait.
Hein. C'est-à-dire dans le jeu politique qui est celui de l'État moderne, au fond.
Complètement. Et en fait, c'est pour ça que la SFIO, des gens comme Jaurès, des gens comme Gustave Hervé, vont revendiquer le droit des ouvriers, enfin le droit général, un droit qui est déjà accordé en Angleterre, qui est déjà accordé en Belgique, donc dans des monarchies constitutionnelles, le droit à manifester. Et c'est comme ça qu'à la suite d'une émeute, j'ai oublié laquelle, va être organisée une manifestation autorisée qui aura lieu, alors je vous donne la date parce que c'est le 17 octobre 1909, et c'est dans cette manifestation que d'après Scheiner, on voit le premier service d'ordre socialiste. Et la manifestation se passe sans souci, il n'y a pas de violence, tout est calme, tout se passe très très bien. Mais certaines, pas mal de gens justement de la CGT ou du monde ouvrier vont se rebiffer contre ça. Parce qu'ils ont l'impression justement que tout devient en quelque sorte contrôlé, apaisé. Mais ils sont pas, je m'ennuie, je ne sais pas s'ils perdent en efficacité sur le coup, mais aujourd'hui on voit bien à quoi servent les manifestations dans la plupart des cas. À rien. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Donc, à moins que vous réunissiez 3 millions de personnes dans la rue, on vous informe que tant de gens ont manifesté à la télé, que le gouvernement les a reçus pour leur expliquer ce qu'ils allaient faire vraiment et pourquoi c'était bien pour tout le monde. Mais bon, on continue de manifester. Et juste après ce premier service d'ordre, justement organisé par la SFIO et d'autres.
Toute la difficulté étant que quand tu manifestes pas, c'est pire.
Bien sûr. Tu as raison de le souligner. Tu as fait raison. Mais c'est vrai que c'est pire. Souvent, c'est pire. Mais souvent, quand on manifeste, évidemment, ce qu'on obtient comme. Comment dire ? Ce qu'on obtient comme revendication, c'est des choses que le gouvernement avait mis en place pour reculer si jamais il y avait un mouvement de contestation. Donc le mouvement de contestation est utile parce que à la limite, il sert à faire reculer les trucs les pires. Donc voilà. Alors, je finis là-dessus, c'est-à-dire que juste après cette première manifestation organisée, il y a eu un enterrement d'un ouvrier qui avait été tué par la police. Et là, les ouvriers qui ont organisé le truc ont totalement refusé la manifestation, le service d'ordre, et sont partis vers une joyeuse émeute. Donc, ici, il ne s'agit pas de dire que l'émeute, c'est forcément mieux que la manifestation, mais qu'en tout cas, il faudrait peut-être réfléchir un peu sur la fonction politique réelle de la manifestation aujourd'hui. On vous laisse.
Et sur le goût de l'émeute.
Et sur le goût de l'émeute. Et on vous retrouve dans deux semaines, peut-être, parce que ce sera les vacances pour nous.
Et l'émission est audible sur le site...
Curdulu.com. Non, pas .com. .org.
G-U-R. C'est pas commercial.
G-U-R-D-U-L-U.
.org. À bientôt.
Inventer la liberté, fichier traité, matraqué, façonnaire vite à moufler, solide gardien de l'abri. Payer armé pour nous tuer. Assassine, l'État dans la poche. Je te juge, l'État contre moi. Assassine, l'État dans la poche. Je te juge, l'État contre moi. Assassine, l'État dans la poche. Je te juge, l'État contre moi. Fasciste. Il m'a dit quotidien, un jeu truqué où tu perds. Terre en meurtre à chaque instant. Trôle d'état assassin. Fragilité, liberté. Assassine, l'état dans la poche. Je te juge, l'état contre moi. Assassine, l'état dans la poche. Je te juge, l'état contre moi. Assassine, l'état dans la poche. Je te juge, l'état contre moi. Fasciste. Révolution, résistance. Paris m'a dit quotidien. La vie zombie régulée. Musée blindé de la prière. La ville résiste, terroriste. Assassine, l'état dans la poche. Je te juge, l'état contre moi. Assassine, l'état dans la poche. Je te juge, l'état contre moi. Assassine, l'état dans la poche. Je te juge, l'état contre moi. Fasciste. Révolution, résistance. Paris m'a dit